Saint Alphonse Rodriguez, qui est né en 1533, mort en 1617, et qui fut un frère convert de la Compagnie de Jésus. Il était, durant toute sa vie, simple portier de collège en Espagne. Mais sa sainteté était si authentique qu'il devint un conseiller spirituel très recherché, et ceci de fort nombreuses personnes, dont certaines ayant une influence politique, un rôle social éminent. Et par conséquent, ce petit frère convert, simple portier de collège, influença ainsi, fort efficacement, la vie sociale et politique de son temps. Et la profondeur de ses conseils, des conseils qu'il donnait ainsi, ne peut s'expliquer que par l'intensité véritable de sa vie mystique. Alphonse Rodriguez fut béatifié en 1825 par le pape Léon XII et canonisé en 1888 par le pape Léon XIII. Et la fête de saint Alphonse Rodriguez se célèbre le 29 octobre. Il est donc né, Alphonse Rodriguez, le 25 juillet 1533. Son père s'appelait Diego Rodriguez et sa mère Maria Gomez. L'un et l'autre, de prospères commerçants, et tout particulièrement en tissu. Ils vendaient des tissus. Et une de leurs spécialités était le tissu l'alazard, qui est une sorte de drap de lainage recherché à cette époque. Et ses parents, donc Diego et Maria, habitaient Ségovie, en Vieille-Castille. Ségovie est une ville située à 78 km au nord-ouest de Madrid et qui jadis était la capitale des habitants de cette région qu'on appelait les Arévasis. Et Diego et Maria étaient considérés par leurs proches dans leur quartier comme de très bons chrétiens, tout particulièrement serviables et généreux. Donc Alphonse Rodriguez est né en 1533. 1533, à cette époque-là, le pape Clément VII règne. Clément VII a pour nom de famille Jules de Médicis, il règne depuis 10 ans. Il était le fils naturel, Jules de Médicis, de Julien de Médicis, et donc neveu de Laurent le Magnifique. Et la nature de Jules de Médicis, devenu Clément VII, était une nature très sérieuse, ayant le goût du travail. Et Clément VII, durant toute sa vie, chercha, durant son pontificat, à réaliser une grande alliance des forces catholiques. Alliance des forces catholiques qui contraindrait ainsi les princes luthériens à ne plus rechercher l'expansion politique tant souhaitée par les princes luthériens. Et Clément VII, tout particulièrement, souhaitait une entente très cordiale avec la France. Et c'est la petite nièce du pape Catherine de Médicis qui va épouser Henri, fils de François Ier. Catherine de Médicis était la fille, elle, de Laurent II de Médicis, duc d'Urbain. Elle était née à Florence en 1519. Elle n'avait donc que 14 ans lors de son mariage avec Henri de France. Elle était très intelligente, elle était rusée, mais aussi assez dissimulée, hélas superstitieuse, mais par ailleurs très artiste. Et en tout cas, ce que voyait la cour de France, c'est qu'elle apportait à la France, Catherine de Médicis, toute la puissance financière de Florence. Quant à Henri de France, le fils de François Ier, il était né en 1518, il n'avait donc que 15 ans lors de son mariage avec Catherine. Ils avaient donc presque le même âge, l'un 14 ans, l'autre 15 ans. Et le 12 octobre 1533, l'année de la naissance d'Alphonse Rodriguez, le pape se rendit à Marseille. Et là, en effet, eut lieu la cérémonie du mariage entre Catherine et Henri. Une cérémonie nuptiale dans toutes les festivités les plus grandioses. Et le pape Clément VII bénit ce mariage politique, mais très bénéfique pour les intérêts des princes catholiques, et c'est ce que voyait Clément VII. Et cette même année 1533, l'année de la naissance d'Alphonse Rodriguez, Henri VIII Tudor, lui en Angleterre, a 42 ans à l'heure, et il est l'époux de Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand V d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Mais Henri VIII s'était pris d'une très violente passion pour une dame d'honneur de la reine, Anne Boleyn. Or, Anne Boleyn était une femme extrêmement sensuelle, aux mœurs très libres, et qui avait déjà mené à la cour du roi Louis XII de France une vie très licencieuse. Et rentrée en Angleterre, elle avait complètement engelé le roi d'Angleterre, Henri VIII. Et afin de divorcer d'avec Catherine d'Aragon, sa femme légitime, Henri VIII, donc Tudor, avait entrepris de fort longues et fort difficiles démarches auprès du pape, Clément VII. Mais le pape était toujours resté inflexible et ne acceptait pas. Cet exemple venant de si haut, d'un divorce évidemment politique, accepté comme politique, et sous l'influence d'une passion violente. Le pape ne pouvait pas accepter. Et en 1533, l'année donc de la naissance d'Alphonse Rodriguez, Henri d'Angleterre, a répudié Catherine d'Aragon et a épousé Anne Boleyn. En Espagne, cette année-là, 1533 toujours, Charles Quint règne depuis 17 ans. Et il est en lutte continuelle avec le roi de France. 3 ans plus tôt, en 1530, il a réussi, Charles Quint, à faire épouser sa sœur Éléonore de Portugal par le roi de France, François Ier, en deuxième noce, car François Ier est veuf de Claude de France. Et 2 années plus tôt, en 1531, Charles Quint s'est fait couronner à Bologne, empereur d'Allemagne et roi d'Italie. Mais toujours dans l'atmosphère de cette lutte entre Charles Quint et François Ier. Entre-temps, François Ier a fait alliance avec le sultan des Turcs, Soliman le Magnifique. Et François Ier a aussi conclu des accords avec les princes protestants d'Allemagne, qui, eux, sont les ennemis mortels de Charles Quint. Et pendant ce temps, la puissance de Charles Quint s'étendait outre-Atlantique. En effet, le capitaine Pitzer, déjà âgé de 58 ans, qui était le fils d'un gentilhomme d'Estrémadour et d'une prostituée, un homme d'un courage extrême, d'une très grande audace, le capitaine Pitzer venait d'obtenir de Charles Quint le titre de vice-roi de ces contrées nouvellement découvertes, et il entreprenait la conquête du Pérou. Cette année 1533, Quito, une des villes importantes du Pérou, était prise par le capitaine Pitzer. Quito, à 2908 mètres d'altitude, et le capitaine Pitzer avait affronté une résistance acharnée de la part des habitants de la région tout autour de Quito. Et il avait éprouvé aussi de très grandes, d'immenses difficultés dans sa progression vers cette ville située si haut. Immenses difficultés dans tous ces défilés montagneux, tant par le fait qu'il fallait transporter là-haut tous ces convois, mais aussi que tous ces défilés se prêtaient admirablement aux embuscades. Devenu adolescent, Alphonse Rodriguez fit ses études chez les pères jésuites, c'est-à-dire les pères de la Compagnie de Jésus, à Alcalá de Henares, à 23 km au nord-est de Madrid. La Compagnie de Jésus, cet ordre, tout nouvellement d'ailleurs fondé par Ignace de Loyola, et qui est en train de se développer très rapidement. Et voici que le père d'Alphonse, Diego Rodriguez, meurt. Alors, Alphonse interrompt ses études et doit revenir à Ségovie pour prendre la succession de son père dans ce commerce de tissus. Nous sommes en 1560, Alphonse a 27 ans, et alors il se marie, et il a très rapidement une fille, puis un fils. Mais sa femme meurt après quelques années seulement de mariage, et ses 2 enfants, eux aussi, meurent en bas âge. Voici donc Alphonse, veuf et sans enfant. Et pour comble de malheur, Alphonse voit péricliter son commerce. Il est même complètement ruiné. Nous voici donc en 1568. Alphonse a alors 35 ans. Il est veuf, il est sans famille. Et Alphonse décide de reprendre à l'heure ses chères études qu'il avait interrompues à la mort de son père pour reprendre le commerce de son père. Et Alphonse part à l'université de Valence. Valence, qui se trouve à 250 km au sud-est de Madrid et qui se trouve aussi à 2 km à l'intérieur des terres. Tout près donc des rivages de la Méditerranée. La ville elle-même de Valence avait été enlevée aux Maures, c'est-à-dire ces musulmans originaires du Maghreb d'Afrique du Nord, enlevée aux Maures par le Cid en 1094. et puis reprise ensuite par les Maures, après la mort du Cid, en 1102. Et ceci, cette reprise par les Maures, malgré l'héroïque résistance de la veuve du Cid Chimène. Tout ceci s'était passé 4 siècles plus tôt, mais était dans toutes les mémoires. Et puis, 100 ans après la mort du Cid et de Chimène, 100 ans plus tard, voici que la ville de Valence est reprise définitivement par le roi Jacques Ier d'Aragon en 1238, et c'est alors que Valence est réunie à la Castille avec la couronne d'Aragon. Et depuis lors, il était resté à Valence beaucoup de morts à Valence, beaucoup d'Arabes après cette conquête. Et l'artisanat des Arabes, cet artisanat et toute l'habileté dans leurs entreprises diverses avaient également les entreprises agricoles alentour de Valence, avaient considérablement enrichi le pays. Alphonse, lui, resta 2 années à Valence. Et il y suivit des cours d'humanité, des cours de rhétorique. Ceci jusqu'en 1570. Nous sommes en 1571. Alphonse a 38 ans. Et il se présente alors au noviciat des jésuites de la province d'Aragon. Et après avoir beaucoup hésité, car il souhaitait tenter de mener une vie érémitique, une vie qui serait vouée uniquement, totalement à la méditation, à la prière, à la pénitence et dans une solitude absolue. Mais il se présente au noviciat des jésuites et Alphonse est accepté comme frère coadjuteur, c'est-à-dire pour aider un autre frère convert. Il est donc frère convert. Et on nomme ainsi dans les communautés les frères qui ne sont pas prêtres et qui sont plus particulièrement adonnés aux travaux manuels. Le mot lui-même de convert vient de conversus, ce qui veut dire converti, récemment admis, car à l'origine, tous les nouveaux convertis étaient donc affectés à ces travaux manuels. Et c'est saint Jean Galbert, qui fut abbé bénédictin de l'abbaye de Vallombreuse, Vallis Umbrosa, en Toscane, qui avait été fondée cette abbaye en 1060 par Jean Galbert. Jean Galbert donc fut le premier supérieur de couvent à établir cette distinction entre les frères converts et les autres frères. Nous sommes en août 1572, Alphonse a alors 39 ans, et toujours frère convert, il est envoyé dans l'île Majorque, c'est-à-dire la plus grande des îles Baléares, à 100 km à l'est de Valence. Dans l'Antiquité, les habitants de ces îles passaient pour d'excellents archers, les meilleurs connus à leur époque, de là donc d'où leur nom de Baléares, qui vient du grec balos, qui veut dire lancer. Et tout d'abord, ces îles avaient été colonisées par les habitants de Rhodes, les Rhodiens. Puis, elles furent soumises, ces îles, par les Carthaginois au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, ce sont les Romains qui occupèrent ces îles en 123 avant Jésus-Christ. Et vers 425, les îles sont envahies par les Vandales, puis ensuite par les Goths, puis par les Arabes, enfin par Charlemagne, et puis encore à nouveau par les Arabes. Et c'est tout dernièrement par les rois d'Aragon, au 13e siècle après Jésus-Christ, bien entendu. Et maintenant, nous sommes en 1572, et Philippe II est maître de ces îles, Philippe II, le roi d'Espagne. À l'époque où le frère Alphonse Rodriguez arrive aux Baléares et va y vivre, ces Baléares étaient en première ligne, considérés comme tels. C'est-à-dire que ces habitants de ces îles avaient donc joué un rôle et continuaient à le jouer, c'est-à-dire protéger tous les habitants des zones côtières de l'Espagne contre les incursions des musulmans. Car en effet, sans cesse, les musulmans venant d'Afrique sillonnaient la Méditerranée. Ils arraisonnaient les bateaux chrétiens, ils prenaient les marchandises, ils emmenaient les prisonniers passagers et les vendaient ensuite, ces passagers prisonniers, sur les marchés, comme esclaves, en Afrique. Et ces îles, tout particulièrement Majorque, avaient sur leur rivage de très nombreuses tours fortifiées, celles-ci servant aux guetteurs pour surveiller sans cesse la mer et aussi interdire les incursions des Arabes sur les côtes. Ces îles étaient constamment alors sur le qui-vive. Et nous sommes en 1573, frère Alphonse a 40 ans. Et le 5 avril, ce frère convert, Alphonse, Rodriguez prononce ses premiers vœux. Les vœux monastiques, les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et l'institution de ces vœux remontait au milieu du IVe siècle à Saint-Basile, qui avait été archevêque de Césarée de Cappadoce, en Asie mineure, dans la région du Pont-Euxin. Et Saint-Basile avait écrit des traités de morale et d'ascétisme, qui faisaient et qui font toujours, dans tous les siècles qui suivirent, autorité, par cette dialectique rigoureuse, cette connaissance profonde, psychologiquement et spirituellement, qui met Saint-Basile au rang des meilleurs auteurs en théologie. Et frère Alphonse, fut employé au collège de Montession, un collège de jésuites, de la Compagnie de Jésus. Ce collège de Montession était à Palma, c'est-à-dire la capitale de l'île Majorque, sur la côte, une ville bien fortifiée, bien solide, et dont le port était parfaitement protégé par les fortifications. Et frère Alphonse commença, dans ce collège, à remplir divers offices. Il se montrait toujours complaisant, efficace, à la disposition de chacun. Et nous sommes en 1579, frère Alphonse a 46 ans, et il est alors nommé portier. Et son obéissance absolue aux consignes du supérieur du collège, c'est-à-dire le recteur, cette obéissance absolue n'a pas de faille. Si un ordre est donné d'ouvrir les portes du collège à une heure déterminée, frère Alphonse ouvrira les portes à cette heure-là et aucun passe-droit ne fera fléchir le frère Alphonse. On cite notamment le jour où de grands personnages s'étaient présentés à la porte du collège. Il s'agissait d'un évêque, d'un vice-roi et de toute leur suite de seigneurs. C'était avant l'heure fixée. Et frère Alphonse, le portier, est absolument inflexible. Il avait fallu prévenir tout spécialement le recteur qui naturellement se précipite, s'excuse et fait ouvrir les portes. Le 25 ans plus tôt, Philippe II, roi d'Espagne, avait épousé sa cousine Marie Tudor, reine d'Angleterre, fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Le mariage avait lieu en 1556. Marie d'Angleterre avait déjà alors 40 ans, elle était née en 1516, et Philippe n'avait que 29 ans, il était né en 1527. Il avait donc 11 ans de moins que son épouse. Il était veuf, Philippe, de Marie de Portugal. Et Marie d'Angleterre, elle, a un caractère extrêmement dur, extrêmement autoritaire, elle est absolument sans pitié. Elle n'hésitait pas à faire décapiter ou brûler tous les opposants à son régime, et notamment les protestants. Et c'est pas ainsi qu'elle fut surnommée Marie la Sanglante. Marie d'Angleterre gouvernait absolument seule l'Angleterre, son royaume n'avait aucune espèce d'immixtion avec les possibilités de Philippe, le pouvoir de Philippe. Philippe régnait sur l'Espagne seul. Philippe délaissa Marie dès son mariage, un mariage contracté sans amour, uniquement dans un but politique. Et Marie mourut 4 ans après son mariage, en 1558, sans enfant. Et l'année suivante, en 1559, voici Philippe veuf, et qui épouse alors Élisabeth de France, la fille du roi Henri II. Élisabeth de France, qui elle était toute fraîche, mignonne, qui n'avait que 14 ans. Et Philippe, lui, déjà âgé de 32 ans, était tombé absolument passionnément amoureux de cette petite Élisabeth, qui avait 18 ans de moins que lui. Et Élisabeth, pourtant, était destinée à son fils par la cour de France. Elle était destinée à son fils, au fils de Philippe, Don Carlos, qu'il avait eu, Don Carlos, de son premier mariage avec Marie de Portugal. Et alors, Philippe, donc, passionnément amoureux d'Élisabeth, pour justifier ce mariage avec Élisabeth, et par jalousie aussi envers son fils, Philippe accusa son fils. Il l'accusa de conspiration, et fit arrêter son propre fils, le fit condamner, le fit emprisonner. Et voici le pauvre Don Carlos qui mourut en prison, sans doute empoisonné. C'est un crime, cet empoisonnement de Don Carlos, dont la rumeur accusa sourdement et longtemps le roi son père, et sans aucune preuve d'ailleurs, qui fut jamais trouvée. Et tandis donc que ce prince soupçonneux, Philippe II, ce prince cruel, ce prince sombre et inquiétant régnait à Madrid, le bon frère Alphonse, toujours portier, simple et consciencieux, faisait lui l'admiration de tous, et notamment par le soin qu'il mettait à accomplir son devoir d'État. Si modeste que fût ce devoir d'État d'ouvrir et de fermer une porte, mais il le faisait avec une si grande exigence de perfection. Être saint, disait-il, c'est agir sous le regard de Dieu, en mettant au service de notre Créateur toutes les capacités reçues de lui, si grandes ou si faibles soient-elles. Et c'était donc pour le frère Alphonse, simplement, d'accomplir son devoir de portier, son devoir d'État, par amour pour son Père du Ciel. Et frère Alphonse, notez, il notait beaucoup de ses réflexions, de ses méditations. Il les notait, et ses nombreux écrits, ses nombreux papiers ont été connus assez rapidement. Et dans, sur un de ces papiers, on lit « Notre Seigneur et notre Dieu prend soin de tout ce qui est nécessaire à notre corps et à notre âme. La route que nous devons suivre quant à nous est essentiellement de nous mortifier, c'est-à-dire de nous obliger à nous dominer nos penchants mauvais. Et ceci, ajoutait Alphonse, en nous aidant de l'oraison. L'oraison qui est cette forme supérieure de la prière, qui consiste à vivre en intimité, en entretien personnel avec l'Esprit divin, en nous ouvrant à l'amour, à la gratitude, à la louange, en laissant ainsi l'Esprit de Dieu guider tout l'élan de notre cœur et de notre intelligence. Et frère Alphonse notait encore, « Jésus, Marie, donnez-moi d'être tout à vous, et nullement à moi. » Et il notait encore, « Seigneur, si je le savais, si je le pouvais, je vous servirais comme toute la création, toutes les créatures devraient le faire. » Et il était toujours portier. Et il continuait à accomplir son devoir de portier. Frère Alphonse eut aussi de grandes expériences ascétiques et mystiques en son humble loge de portier. En son humble loge de portier, il fut favorisé de lumières intérieures, de visions, même de locutions, c'est-à-dire de paroles surnaturelles destinées à le guider, à le soutenir, à l'aider dans sa vie spirituelle. Et la renommée de frère Alphonse, peu à peu, franchit les murs du collège. Et on commença à voir de grands personnages entreprendre des voyages, de longs voyages, pour venir converser avec cet humble et pieux portier, pour lui demander des conseils et des prières. Et frère Alphonse cherchait à communiquer à ses visiteurs toute la dévotion très tendre, la confiance sans limite qu'il avait tout particulièrement avec notre Mère du Ciel. Et frère Alphonse invoquait constamment de très nombreux saints dont il cherchait à bénéficier des enseignements et de tous les exemples que ces saints avaient pu laisser. Et pendant toute la période de sa vie, au moins une dizaine d'années, frère Alphonse avait connu pourtant beaucoup d'aisance, certainement, et de facilité à prier. Puis, pendant une période au moins aussi longue, le pauvre frère Alphonse fut terriblement éprouvé par de grandes difficultés à entrer en oraison. Mais comme frère Alphonse savait l'importance si grande de cet exercice spirituel, si douloureux et si difficile que cela fût, il luttait, le bon frère, pour accomplir quotidiennement l'heure qui était réservée par la règle du monastère à cette oraison si utile. Et Dieu semblait le récompenser de cette seule persévérance, de cette simple persévérance, de cette assiduité, à le récompenser par des grâces exceptionnelles. Et en 1617, le roi Philippe II d'Espagne est mort depuis déjà 19 ans, mais c'est son fils Philippe III qui est monté sur le trône. Il avait 20 ans, Philippe III, lors de son avènement, car il était né en 1578. C'est un prince, Philippe III, apathique et très faible de santé. Et dès le début de son règne, Philippe d'Espagne, Philippe III, a laissé son ministre, le duc de Lerme, gouverner tout à sa guise. Le duc de Lerme, François de Roxas de Sandoval, duc de Lerme, dont le fief Lerme est à 38 km au sud de Burgos, François de Roxas de Sandoval jouit ainsi d'une autorité absolument sans bornes. Et le duc de Lerme est extrêmement prodigue. Et il vide littéralement le trésor royal. Mais il eut cependant, une initiative heureuse, c'est-à-dire de négocier une alliance avec la France. Et pour négocier cette alliance, il donne pour épouse au roi de France Louis XIII l'infante Anne d'Autriche, qui est la fille aînée du roi Philippe III. Anne d'Autriche est née en 1602, elle a donc 13 ans seulement en 1615, lors de son mariage avec le roi de France. Louis XIII, lui, n'a qu'un an de plus que Anne, car il a 14 ans. Quand les négociations eurent lieu, il fut alors, Louis XIII, pour pouvoir se marier, déclaré majeur à 14 ans. Et lors de son mariage, il venait à peine d'avoir 15 ans. Le duc de Lerme, lui, ministre d'Espagne, continue là, en Espagne, sa gestion désastreuse par ailleurs. Il a le même jusqu'à voulu chasser les Maures convertis, car il craignait leur soulèvement. Mais ces Arabes, en fait, représentaient dans cette région-là une population industrieuse qui enrichissait l'Espagne. Aussi, leur départ, qui était près d'un million d'exilés, finalement, ne figure qu'appauvrir le pays. En outre, le duc de Lerme fait subir à la monnaie des variations continuelles, ce qui accroît bien sûr la misère du pays. Et c'est durant ces troubles économiques et sociaux, que le frère Alphonse, arrivé à un grand âge, à l'âge de 84 ans, et continuant cependant très vaillamment, avec courage, son rôle de portier du monastère, donnant ainsi dans sa loge des conseils et des directives spirituelles à un grand nombre de visiteurs, et parfois des personnages importants, le frère Alphonse commence cependant à se sentir de plus en plus fatigué. Il essaye de dominer, par des efforts de volonté, cette décroissance de ses forces, mais hélas, en vain. Et le frère Alphonse doit s'étendre de plus en plus fréquemment, il ne peut plus guère bouger. Il devine que sa mort est prochaine. Et c'est cette année 1617, à l'âge de 84 ans, que le frère Alphonse meurt. Et il meurt en invoquant de toute son âme celui qui était son sauveur, son maître, son ami. Et le frère Alphonse expire en disant longuement, en appelant, plein d'espérance, Jésus.